Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France bouge, au service d'un monde qui change. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée à ça. À l'occasion de la sortie du film Top Gun Maverick, dont Europe 1 est partenaire, nous avons voulu explorer les métiers de l'industrie navale, les innovations. On va en parler jusqu'à 14h avec le délégué général du GICAN, c'est le groupement des industries de construction et activités navales. La France bouge, c'est votre rendez-vous de vos pépites françaises. À la une, en effet, l'armée et ses innovations. Gros plan sur un drone d'observation militaire tout terrain grâce à sa structure entièrement gonflable. C'est toulousain, c'est Dieu dont drone et on découvre cette start-up d'ici quelques minutes. Dans cette France bouge spéciale, un portrait, il est le 13e commandant du porte-avions Charles de Gaulle, Sébastien Martineau, et lui aussi autour de la table de la France bouge. Ensuite, gros plan sur la formation de nos pilotes de l'air avec l'École nationale de l'aviation civile, l'ENAC, depuis 1949. Rendez-vous à 13h30 avec le récit de Charlotte Barrican. Le pitch des trophées Europe 1 de l'avenir avec notre partenaire la CCI et Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui on va recevoir L-Wave, c'est un système innovant de détection sous-marine inspiré du mode de perception des poissons tropicaux.
Rendez-vous à 13h45 pour découvrir L-Wave. Et puis en fin d'émission, demain au travail, quels sont les métiers qui recrutent dans la marine, pour quelle formation? Il paraît qu'on cherche à féminiser aussi le métier. Allez, bienvenue dans La France bouge, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour cette émission spéciale Top Gun.
Europe 1.
Toutes ces entreprises qui innovent, ces initiatives positives, c'est ici à La France bouge et le film culte Top Gun sort son deuxième opus. Ça sort demain, 30 ans après. Europe 1 est partenaire et nous à La France bouge, on a eu envie d'explorer les métiers de cette industrie navale avec nos invités. Bonjour Philippe Missoff.
Bonjour Elisabeth Assayag.
Bienvenue dans La France bouge. Vous êtes le délégué général du GICAN. Le GICAN, c'est le groupement des industries de construction et activités navales. 55% de votre activité, c'est de la défense. Le reste, c'est du civil. Ça représente toutes les industries du naval, les équipementiers, les chantiers, les sociétés de services qui produisent des navires, des sous-marins, des drones maritimes. Pour que l'on comprenne bien, Philippe Missoff, ça sert à quoi le GICAN?
Bah, le GICAN, ça a trois principales missions. D'abord, c'est représenter et défendre ces industries que vous venez de décrire. Ensuite, ça sert donc à les promouvoir en France et à l'étranger, notamment à travers deux salons, un salon qui s'appelle Euromaritime, qui est civil, et un salon Euronaval, qui lui est militaire et qui a lieu en octobre.
Oui, c'est bien vos deux activités que vous représentez.
Nos deux activités, exactement. Mm-hmm. Et la troisième mission, c'est construire avec nos adhérents et avec les pouvoirs publics l'industrie navale de demain. Donc ça va être travailler sur les sujets de l'innovation, travailler sur le sujet de l'emploi, formation, compétences, développer aussi toutes les problématiques autour de la réglementation et de la normalisation. Et enfin, pas des moindres, soutenir nos entreprises à se développer à l'international.
Ça, c'est pour le rôle du GICAN. Il y a environ 250 entreprises.
On a 253 entreprises.
253 entreprises donc autour de ce secteur naval, de cette industrie navale. Philippe Missoff, la crise Covid avait révélé que l'industrie devait être une priorité nationale. La crise ukrainienne le démontre de manière encore plus flagrante. Comment, du côté de l'industrie navale, on est en train de s'organiser?
Déjà, on avait pris donc la mesure des problèmes, en effet, comme vous avez dit, durant la crise du Covid. On avait quelques inquiétudes sur les chaînes logistiques. Aujourd'hui, c'est évidemment confirmé avec la situation
en Ukraine,
où en effet, on a des problématiques d'approvisionnement qui sont importantes.
De quoi ?
Sur tout ce qui est les métaux, notamment, sur les composants électroniques. Et donc c'est des problématiques d'approvisionnement à la fois en délai et en prix, puisque les prix augmentent de façon considérable sur certains, avec des x10 voire des x100 sur certains petits composants.
Ça n'était jamais arrivé
Ça n'était jamais arrivé, non. Et donc, résultat, ça pose des problèmes, en effet, pour nos entreprises qui, aujourd'hui, ont, des contrats en cours et donc qui risquent des pénalités de retard et de voir leur marge
considérablement. Donc, ça ne va pas si bien que ça. En ce moment, c'est compliqué
situation. C'est compliqué, mais maintenant, on est une industrie du temps long. Donc, en fait, on avait un carnet de commandes qui était bien plein avant la crise Covid, qui a bon an, mal an, réussi plus ou moins à se maintenir avec une baisse des prises de commandes quand même, mais un carnet qui est resté assez étoffé. Beaucoup de livraisons qui sont prévues. Des reports, aussi, les équipementiers aussi ont quand même réussi, même s'il n'y avait pas des nouveaux navires qui étaient produits. Vous avez eu beaucoup d'équipementiers qui ont réussi à vendre des équipements justement dans le cadre de la maintenance, parce que les marines n'achetaient plus d'équipements neufs, mais devaient maintenir quand même leurs équipements. Résultat, notre industrie, elle reste forte, mais vu qu'on est une industrie du temps long, comme je vous disais, nous, on craint une crise contracyclique et aujourd'hui, on commence à avoir en effet quelques signes, notamment au sein de certaines PME. Et les grands groupes réussissent encore à résister, mais la question, c'est jusqu'à quand ?
Jusqu'à quand ? Voilà. Mais pourtant, on le voit là avec la guerre en Ukraine, le secteur de la défense regorge aujourd'hui d'investissements. Est-ce que ça signifie qu'on veut tous se protéger aujourd'hui ?
Aujourd'hui, déjà, il faut se rendre compte que l'Europe vivait sur un acquis comme quoi il n'y aurait plus de guerre en Europe.
Depuis le début depuis 15 ans, les chantiers chinois et russes ont connu une très forte croissance.
Très forte, qui a été signalée à plusieurs reprises. Par les Turcs, les Sud-Coréens. Donc il y a une très forte compétition qui s'est installée aussi, avec donc des capacités de surproduction chez eux qui ont entraîné donc une baisse de leur prix, évidemment, grâce à des subventions. Et donc, on s'est retrouvé sur des marchés avec des nouveaux concurrents, avec des tarifs assez bas. Ce qu'on appelle la concurrence déloyale, qui est un sujet qui est en train d'être traité, notamment au niveau de l'Union européenne. Et donc, il y a eu ce réarmement qui a été perçu, mais qui n'a pas été pris au sérieux. Et d'ailleurs, on a eu toute la problématique de la taxonomie au niveau de l'Union européenne il n'y a pas très longtemps, en expliquant on ne va plus financer les activités où il y a 5% du chiffre d'affaires, les industries où 5% de leur chiffre d'affaires se fait dans la défense. Parce que nous, on est une industrie, on est une zone de paix, il n'y a pas de raison de le faire. Alors que nous, on a toujours expliqué
Il faut continuer à préparer notre défense, même s'il n'y avait pas de danger imminent. Votre ligne, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
La durabilité de notre nation et de l'Europe dépend de cette capacité
à pouvoir se défendre et investir. Vous restez avec nous, Philippe Missoff, vous êtes le délégué général du GICAN dans cette France Bouge, consacrée à toute cette industrie navale. À l'occasion du film Top Gun Maverick, Europe 1 est partenaire. Nous, on avait voulu en savoir plus sur toute cette industrie naval. Vous l'avez pas encore vu, Philippe Missoff, d'ailleurs, le film là.
Je ne l'ai pas vu, mais j'ai hâte de le voir. Il y aura des beaux porte-avions en plus.
Très très beaux porte-avions. On va continuer à en parler dans La France Bouge. 13h12 sur Europe 1. Restez avec nous.
Europe 1. La France Bouge. Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans La France Bouge, l'émission qui met en avant les entrepreneurs français, les pépites françaises. Émission spéciale à l'occasion de la sortie du film Top Gun. Vous entendez. Mais oui, on a eu envie d'en savoir plus sur l'industrie navale et nous sommes ravis d'être avec vous, Philippe Missoff. Vous êtes le délégué général du GICAN. Le GICAN, on le disait, c'est le groupement des industries de construction activité navale. Il y a plus de 250 entreprises au sein du GICAN. Tiens, justement, ça représente combien d'emplois directs, GICAN ?
Le GICAN, ça représente 48 500 emplois, à peu près, répartis sur toute la France, dans tous les territoires. Notamment sur les territoires littoraux. C'est des emplois extrêmement qualifiés, parce qu'il faut plus de 5 ans, par exemple, pour bien exercer son métier sur des métiers très précis comme chaudronnier, soudeur.
Des métiers où il faut un réel savoir-faire. Pour cette émission spéciale, on a eu envie d'en savoir plus aussi parce que l'innovation technologique, elle est de plus en plus présente dans vos métiers, dans vos secteurs, dans l'industrie navale. Elle sert à quoi ? Est-ce que vous, dans les entreprises qui sont au sein du GICAN, est-ce qu'il y en a beaucoup de ces entreprises avec ces nouvelles technologies ?
Des entreprises innovantes, oui, il y en a beaucoup, que ce soit dans l'industrie navale ou dans l'industrie de défense en général, puisque pour vous donner quelques chiffres, parce que je sais que vous aimez les chiffres.
Oui, on adore.
Voilà. que vous avez, en gros, les industries de défense, ça représente 2% des entreprises qui font de la recherche et développement en France, mais c'est 25% des chercheurs en entreprise. Donc, ça vous montre un peu le taux d'investissement qui est fait par les entreprises de la défense dans l'innovation. Et l'innovation, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important.
C'est devenu complémentaire, hein, finalement, à votre métier. Même ça fait partie intégrante de votre métier. C'est essentiel.
Ça fait partie de l'ADN. C'était la ministre, l'ex-ministre Florence Parly. Voilà, qui disait que l'innovation de défense, c'est pas un gadget, c'est un moyen essentiel et nécessaire de garantir la supériorité opérationnelle de nos armées et de préserver notre autonomie stratégique et la puissance de notre industrie.
Donc il en faut. Justement, l'État là souhaite se doter de drones pour neutraliser des cibles lorsqu'il y a des conflits, des conflits de haute intensité. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs des appels à projets qui ont été lancés avec l'Agence Innovation Défense, avec la DGA. Et nous, à la France Bouge, on a trouvé justement à notre échelle des drones pour la défense et pour les secours. Bonjour Antoine Tourné.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Bienvenue dans la France Bouge, vous êtes le cofondateur de Diodon, D-I-O-D-O-N. Ce sont des drones gonflables et étanches destinés au milieu maritime. Ça veut dire quoi Diodon ?
Alors Diodon, c'est le nom le nom scientifique du poisson porc-épic en réalité.
Très bien.
C'est un clin d'œil.
C'est un clin d'œil à votre innovation. Ça existe depuis 5 ans. C'est une jeune entreprise toulousaine. Et donc vous avez conçu un drone d'observation militaire tout terrain qui, grâce à sa structure entièrement gonflable. C'est ça ?
C'est ça. Donc en fait, la structure gonflable, pour nous, c'était notre première innovation. C'était comment rendre un drone tout terrain, en effet.
C'est un sujet de fin d'études, en plus, je crois, hein, c'est ça ?
C'est ça. On a mené le projet dès le début de nos études d'ingénieur à l'ISAE Super-Héros. Et en fait, on a déroulé ce projet-là au début un peu en tant qu'étudiant. Et puis progressivement, c'est devenu un vrai projet de start-up.
Un vrai projet, ouais.
Et surtout au moment où, en fait, les forces spéciales françaises nous ont identifiés, en fait. Et ont cherché à utiliser notre technologie pour des applications du monde de la défense.
Alors, on va essayer de la comprendre, cette technologie. Donc, elle est destinée, vous venez de le dire, à la défense, pour le monde de la défense, pour les secours. Sa particularité, c'est qu'il n'a pas de partie rigide. Ce drone peut se poser sur tous les terrains et même en mer.
C'est ça, oui. C'est que le drone...
C'est extraordinaire.
Extraordinaire, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est...
Enfin, pour nous, oui.
En tout cas, ça permet d'avoir l'avantage d'avoir un drone qui va être à la fois compact, très robuste, parce qu'en fait, on va avoir un airbag intégré. Et enfin, ça permet de flotter. Et en fait, c'est même le point le plus important, puisqu'aujourd'hui, ça nous a permis en fait, de vraiment développer tout un savoir-faire autour de l'aspect maritime en fait, de nos drones.
Si vous nous suivez sur europe1.fr, on peut voir vos drones fait, pour qu'on comprenne exactement à quoi ils servent. Donc là, vous pouvez peut-être nous décrire ce qu'on
voit. En fait, c'est un drone qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Donc là, c'est notre premier système. C'est-à-dire que nous, l'objectif à terme, c'est de développer une gamme de produits pour l'ensemble des applications en mer. Donc là, aujourd'hui, on a un premier drone qu'on commercialise actuellement.
On l'a vu, il est facile à transporter et une fois sur le bateau, il se gonfle comme avec une pompe à vélo.
Oui, tout à fait.
Très basique.
C'est le moyen le plus rustique, le plus basique, en effet. Et donc après, les opérateurs vont pouvoir le mettre très facilement en œuvre, le lancer concrètement dans l'eau pour qu'il puisse réaliser sa mission. Donc là, c'est le drone d'observation.
Et donc,
on va pouvoir faire, là, typiquement, dans le cas illustré, ça va être, par exemple, du soutien plutôt à des gardes-côtes pour faire de la lutte anti-trafiquant par exemple, mais ça peut être aussi utilisé, voilà, par exemple, dont vous en parliez, sur les secours en mer, par exemple, ou bien également pour faire tout ce qui va être des applications plus défense encore, avec le soutien aux équipes de visite, par exemple.
Il a une autonomie d'une demi-heure. Vous avez réussi à l'adapter au monde de la défense aussi.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, nous, initialement, donc, on avait vraiment un projet qui était très étudiant, donc axé grand public, quand on s'est lancé dans l'entreprise Diodon. Maintenant, c'est vrai que rapidement, les forces spéciales nous ont identifiés, nous ont demandé d'adapter cette technologie pour remplir leur mission.
Il a été testé par l'armée française au Mali.
Oui, par exemple, en effet. Oui.
Et les essais ont été concluants.
Tout à fait. Alors après, nous, aujourd'hui, on était dans une phase vraiment très expérimentale. Donc, on avait des premiers systèmes qui sont même la génération avant, celle qui est présentée ici, et qui, du coup, avaient vocation à être justement expérimentés par des unités comme les forces spéciales sur des terrains, donc par exemple au Mali, mais aussi plus en mer, dans des pays un peu plus nordiques, par exemple. Et là, on va avoir du coup un enjeu de maintenant passer sur des gammes plus industrielles avec des utilisations plus larges, que ça soit aussi bien auprès des forces spéciales, des gardes-côtes, mais aussi maintenant dans le monde industriel.
Philippe Missoff, délégué général du GICAN. Hein. Le GICAN, donc, c'est ce groupement de toutes ces entreprises d'industrie navale. Quel regard portez-vous sur Dieudonné ? C'est le genre d'entreprise qui pourrait faire partie de votre groupement ?
Mais Dieudonné fait partie de notre groupement.
Bah voilà, il fallait le dire Dieudonné, depuis le début, j'attendais.
Mais Dieudonné est surtout un accéléré au sein de notre accélérateur C-Start, parce que l'innovation, c'est quelque chose de très important.
C-Start qui a été mis en place en 2018.
2018, voilà, donc c'est la deuxième promotion. Ils ont été sélectionnés par un jury dans lequel il y avait l'Agence Innovation Défense, notamment des armateurs, des industriels. Et ils ont été donc sélectionnés parmi les 14. Il y a eu 14 sélectionnés.
Donc vous les suivez attentivement.
Et donc on les suit attentivement. On essaie de les accompagner justement dans leur démarche de croissance. C'est une solution qui est géniale. D'ailleurs, la solution maritime.
Il est très humble, je tiens à le préciser, c'est assez exceptionnel.
Ils ont un truc qui est complètement fou. Alors, moi, j'avais travaillé sur l'intégration des drones sur les plateformes navales dans mon ancienne vie, il y a 5 ans, donc c'est pas si vieux que ça. Jamais j'avais imaginé des choses comme ça. Et je vois là le système, notamment où leur drone sort d'un sous-marin et est téléopéré depuis un sous-marin. On n'est pas dans du Top Gun, on est dans du James Bond. Alors, c'est pas le film du jour, mais...
Top Gun, mais peut-être qu'un jour, Top Gun 3, allez, on utilisera le Dieudonné, le drone gonflable.
Mais donc c'est vraiment des produits extraordinaires et...
Merci Antoine Tourné, cofondateur de Dieudonné. Vous êtes très très humble, mais je vous invite, chers auditeurs, à aller voir ce que c'est très concrètement, ces drones gonflables et étanches destinés au milieu maritime, à la fois pour les secours et pour la défense. Il est 13h24 sur Europe 1. À suivre, direction l'École nationale de l'aviation civile. Elle forme les pilotes depuis 1949 et le témoignage du commandant du porte-avions Charles de Gaulle. C'est ici, à La France Bouge. À tout de suite.
Europe 1. La France Bouge. Elisabeth Assayag.
Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour entre 13h et 14h autour d'un grand témoin du jour. Aujourd'hui c'est une émission spéciale parce que le film Top Gun Maverick sort demain. Europe 1 est partenaire, mais oui vous entendez la musique, et on a voulu explorer tous ces métiers de l'industrie navale, rentrer même dans les arcanes de ces pilotes de chasse et notamment aujourd'hui nous sommes ravis à l'occasion de la veille de la sortie du film Top Gun Maverick d'être avec vous, capitaine de vaisseau Sébastien Martineau, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes le pacha, c'est-à-dire le commandant du porte-avions Charles de Gaulle. Là en ce moment, vous êtes où ? On entend, il y a un léger décalage. Vous vous trouvez là en ce moment sur le porte-avions ?
Alors exactement, je suis actuellement à la passerelle de navigation du porte-avions. Alors nous ne sommes pas en mer, nous sommes à quai puisqu'on avons débuté une période d'entretien, mais je peux observer le pont d'envol, les catapultes, là, qu'on est en train de démonter pour réaliser un certain nombre d'entretiens. Et oui, je suis bien à la passerelle de navigation du porte-avions.
Donc c'est comme s'il était en mer, mais vous êtes à Toulon. Je vous appelle commandant, c'est ça ? Parce qu'il y a plein d'appellations, donc je vous appelle commandant, c'est ça ?
Oui, commandant, c'est très bien.
Alors, ouais, commandant, déjà vous aviez 8 ans quand Top Gun est sorti, c'était en 1986. Vous l'aviez vu ce film ? Est-ce que ça a réveillé chez vous une vocation ?
Alors, je dois vous avouer que ce n'est pas le film Top Gun qui m'a amené à rentrer dans la marine. Ouais. Néanmoins, aujourd'hui, je le prends beaucoup comme référence culturelle, cinématographique, parce que voilà, aujourd'hui, avec le recul, on a une vision différente de ce film. Mais bien sûr, il a bercé mon enfance quand même.
Il a bercé
tout.
Votre enfance, bien sûr.
Moi, je suis rentré dans la marine suite à avoir observé un décollage vertical d'un Rafale Marine à l'époque au Salon du Bourget, qui est organisé par ma professeure de physique-chimie à l'époque. Il nous avait envoyé au Salon du Bourget. J'avais été absolument bluffé par les performances de cet avion.
Et là, ça
et je
fait
savais
tilt.
Que la marine allait s'en doter et donc j'ai été séduit. Ça fait vraiment tilt.
Vous avez été séduit. Pour qu'on comprenne bien, vous, commandant, vous dirigez un peu les Top Gun français puisque les pilotes d'avions de chasse sont embarqués sur le Charles de Gaulle. Ce sont les Top Gun, hein. C'est vous ?
Alors, effectivement, le porte-avions accueille à bord, quand il part en mission, le groupe à embarquer, qui est constitué de flottilles de chasse et d'avions aussi de guerriers aériens, Hawkeye, flottilles de chasse de Rafale Marine. Et encore récemment, d'ailleurs, on a qualifié de jeunes pilotes à l'appontage qui ont fait leurs premiers appontages à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Voilà, donc le bateau part en mer et puis c'est un peu une école de l'aviation embarquée qui accueille des nouveaux pilotes qui ont d'abord été formés aux États-Unis, qui ont fait à peu près un an et demi à deux ans de formation aux États-Unis, qui les a rapprochés d'ailleurs de Top Gun en quelque sorte. Et à la fin, ils sont transformés sur Rafale Marine et on les qualifie à l'appontage sur le Charles de Gaulle.
Et pourquoi ils sont formés aux États-Unis ?
Alors, ils sont formés aux États-Unis parce que les États-Unis disposent de 11 porte-avions et donc d'infrastructures, d'un avion d'entraînement, toute une structure qui permet d'enseigner l'appontage. Mmh. Les Américains, comme la France d'ailleurs, étaient vraiment les pionniers en matière d'appontage et le sont encore aujourd'hui. Et donc, la marine française s'est ralliée à cette formation qui permet d'aller plus vite aux résultats. On pourrait former nous-mêmes nos pilotes, mais ça coûterait plus cher et ça durerait plus de temps.
Alors vous, commandant, quand on dit que vous êtes le Pacha, c'est-à-dire le commandant du porte-avions Charles de Gaulle, ça signifie que vous êtes responsable, vous êtes le maître à bord, hein, vous êtes responsable de conduire, de piloter le navire en opération, vous êtes responsable de la préparation, de l'entretien, vous nous l'avez dit là au début de notre entretien justement, de l'équipage, de l'entraînement et surtout de l'entraînement au combat.
Exactement, oui, c'est bien sûr un porte-avions, c'est avant tout un navire de combat, de même que les avions de chasse sont des avions de combat, et mon premier rôle c'est d'abord de préparer, bien sûr de conduire, mais d'abord de préparer l'équipage, techniquement, moralement, d'entretenir le navire, donner aussi du sens à la mission, donner du sens à l'action de chacun, parce que c'est une immense organisation, un porte-avions, il faut imaginer que c'est une ville mobile, on est 1800 à bord.
C'est une petite ville.
Voilà. C'est une petite ville française qui bouge en permanence, qui se déplace et qui vient répondre aux besoins opérationnels. Vous avez à bord une centrale nucléaire, vous avez des ateliers aéronautiques, vous avez un hôpital, vous avez tout ce qu'il faut pour opérer depuis la mer.
Il y a un hôpital.
Exactement, oui, on est vraiment autonome. On est capable de mener les opérations dans la durée, donc on a tout ce qu'il faut pour rester autonome, notamment au plan sanitaire, avec un hôpital, des blocs opératoires, un scanner, radiographie, etc. Donc j'ai une multitude de compétences à bord et qu'il faut orchestrer, et c'est mon rôle avec mes adjoints, puisque je ne suis pas tout seul, évidemment. Vous imaginez bien, j'ai une dizaine de commandants adjoints qui me permettent justement de gérer l'ensemble de ces domaines.
Donc c'est comme une immense ville autonome, il y a toute une panoplie de métiers. Quelle est la moyenne d'âge au sein du porte-avions Charles de Gaulle?
C'est variable, mais c'est aux alentours des 30 ans. Ouais. On a à peu près 15% de femmes, puisque le porte-avions est un bâtiment, dès le départ, qui a été féminisé. Hein, c'est-à-dire qu'on a
15%,
des zones
c'est
distinctes
pas non plus
pour les femmes.
Ça me paraît pas énorme, 15% par rapport aux années, par rapport à il y a 10 ans.
C'est un chiffre qui est en augmentation, mais effectivement, c'est pas énorme sur la proportion de l'équipage. Néanmoins, c'est une voie dans laquelle, oui, voilà, exactement. Et la marine fait énormément d'efforts, justement, pour favoriser la mixité et pour faire comprendre à nos jeunes talents féminins qu'elles ont aussi leur place à bord, et c'est vraiment le cas.
C'est vraiment le cas. Le porte-avions a trois principales étapes dans un cycle. Donc, il faut l'entretenir, il faut préparer, une préparation opérationnelle. Et quand vous partez en mission, là, vous commandez près de 1200 personnes. Mais quand vous êtes en mission, il y a beaucoup plus de monde.
Oui, à ces 1200 personnes qui sont vraiment l'équipage résident à l'année, il faut ajouter à peu près 500 personnes pour le groupe air embarqué, c'est-à-dire les flottilles, les pilotes, les techniciens, les avions, et puis une petite centaine de personnes pour l'état-major du groupe aéronaval, puisque le porte-avions n'est jamais tout seul en opération. Il a son escorte, il y a des bâtiments d'accompagnement, il y a un sous-marin, il y a des avions de patrouille maritime, et tout ça est commandé tactiquement par un état-major et à la tête un contre-amiral.
Donc là, vous nous racontez quelque chose de très organisé. Hein, vous l'avez dit, c'est une petite ville autonome. Oui. Si on se replonge dans Top Gun, parce que c'est aussi ce qui nous a inspiré de faire cette émission aujourd'hui, cette France Bouge. Dans Top Gun, on voit qu'il y a pas mal de concurrence. Il y a le dépassement de soi. Est-ce que tout ça, toutes ces émotions, tout ce qu'on voit dans Top Gun, est-ce qu'on le retrouve au sein du Charles de Gaulle?
Alors, je pense que ce qu'on retrouve sur Charles de Gaulle, alors pas de concurrence, d'émulation.
Il
n'y
a
oui,
pas de compétition.
Sûr.
Il n'y a pas de concurrence. Chacun est à sa
non,
place.
Non, il n'y a pas. Chacun a été sélectionné pour faire ce qu'il fait à bord. Mmh. Alors, il y a des gens qui progressent, bien sûr. Il y a des résultats qui sont attendus dans leur progression, mais il n'y a pas de concurrence. La sélection est faite en amont. Et en revanche, une valeur qui est vraiment importante pour nous, c'est bien sûr la cohésion, l'entraide. Finalement, qui fait en sorte que qui fait en sorte que le collectif est efficace, que chacun se connaît, s'apprécie pour être efficace à la fois bien sûr en entraînement, mais surtout au combat.
Et vous les connaissez tous un par un, les 1500?
Alors, je m'efforce en tout cas de bien les connaître, mais il faut quand même reconnaître que je connais pas tout le monde personnellement. Mais en tout cas, tous les visages me sont pas du tout inconnus. Certaines personnes que je connais très bien parce que je les ai connues par le passé. Moi, j'étais anciennement pilote et j'ai fait plus de 15 ans de vie embarquée à bord de ce navire. Donc forcément, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui sont aujourd'hui plus anciens et je les ai côtoyés beaucoup plus jeunes comme moi je l'étais à l'époque. Et finalement, avec eux, j'ai des liens particuliers. Les plus jeunes, effectivement, je les connais beaucoup moins, mais pour ça, j'ai les adjoints, des chefs de service qui les connaissent bien mieux que moi.
Sébastien Martineau, vous êtes le commandant, donc le pacha du porte-avions Charles de Gaulle depuis maintenant 10 mois. En tout, ça va durer 2 ans, à peine 2 ans. C'est comme ça, c'est la durée.
Deux ans. Les commandements de bateaux, c'est de l'ordre de 2 ans. En tout cas, pour ces navires de cette classe, c'est 2 ans qui permet d'avoir une vision continue et surtout un tuilage avec le commandant second qui est le numéro 2 qui assure la permanence, la suppléance du commandant en cas de besoin. Et donc, on assure en permanence, si vous voulez, un tuilage. Et donc, comme les postes font 2 ans, et bien...
Mais c'est vous le seul maître à bord en ce moment. C'est vous.
Alors oui, mettre à bord,
dire,
oui, c'est surtout c'est l'autorité. Je suis l'autorité. Voilà,
c'est vous qui commandez tout le groupe aéronaval. C'est vous.
Le porte-avions.
Et le porte-avions. Après ces 2 ans, on fait quoi quand on a été le commandant, le pacha du porte-avions Charles de Gaulle? Il se passe quoi après?
Bien après, ce qui en général se passe, c'est une carrière vers l'état-major centraux, en interarmée, à l'état-major des armées. Peut-être aussi un passage par des centres de hautes études militaires à Paris. Voilà, c'est ce qui nous attend forcément quand on a été commandant du porte-avions. On a été en lien avec un nombre de problématiques importantes, de l'exploitation de centrales nucléaires, aux problématiques de ressources humaines, aux spécificités de la mise en œuvre de l'aviation embarquée, à la vision prospective des programmes d'armement, nous amène forcément à avoir une vision d'ensemble assez utile par la suite en état-major central.
Donc vous quitterez l'opérationnel, mais aucun regret finalement? On est dans une carrière où vous aurez été pendant 2 ans au sein du porte-avions et après vous allez faire autre chose.
On peut pas avoir de regrets. Enfin, en tout cas, moi, j'en aurais pas.
Aucun regret.
J'ai eu la chance de faire une très belle carrière opérationnelle, elle n'est pas terminée, et qui m'a permis de naviguer sur toutes les mers du monde presque. Du cercle polaire jusqu'à l'équateur, en allant jusqu'à la mer de Chine. Et donc, j'ai vu énormément de choses très intéressantes. Et j'aurais à cœur, bien sûr, de transmettre ensuite cette expérience et cette expertise en état-major central ou interarmée.
Merci, commandant Sébastien Martineau, commandant le pacha du porte-avions Charles de Gaulle, d'avoir été aujourd'hui dans La France Bouge en direct. Philippe Missoff, directeur général du GICAN, vous venez d'écouter attentivement là, le témoignage.
Oui, c'est que le témoignage du commandant est très intéressant. Et c'est vrai que c'est un superbe navire qui est le fleuron de la marine nationale. Avec des caractéristiques techniques extrêmement complexes et donc aussi avec des métiers. Donc, il rentre en phase d'entretien et donc énormément de métiers extrêmement pointus
pour assurer sa maintenance. Des métiers qu'on ne connaît pas. Il y a quoi comme métiers? On y retrouve.
Alors là, j'ai pas. Non, je voulais. Si, c'est des métiers que vous connaissez, qui sont les métiers qui tournent autour de la chaudronnerie, de la tuyauterie. Mais là, on parle de nucléaire. On parle quand même. C'est un réacteur nucléaire. Vous avez l'alignement des catapultes dont vous a parlé, qui permet de catapulter, de recevoir les avions. C'est des systèmes à vapeur qui nécessitent une précision qui est au millième de millimètre près. Donc c'est vraiment des métiers extrêmement spécifiques qu'il faut.
On va continuer à parler de tous ces métiers. Vous restez avec nous, Philippe Missoff, délégué général du GICAN. Il est 13h41 sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils exposent leurs projets. Aujourd'hui aussi, ils ont une minute pour convaincre le témoin du jour, exigeant, attentif, expert. Aujourd'hui, à l'occasion de la veille de la sortie du film Top Gun Maverick, dont Europe 1 est partenaire, on a voulu explorer... Oui, merci pour la musique de Top Gun, vous l'entendez. On a voulu explorer les métiers de l'industrie navale, les innovations. Et aujourd'hui, nous sommes avec Philippe Missoff, délégué général du GICAN. Nous sommes avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, on va vous présenter un projet qui a été lancé il y a 4 ans, mais qui va être commercialisé là très concrètement l'été prochain. Bonjour Pierre Tufigo.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur d'Elwave, E-L-W-A-V-E. C'est un système de détection sous-marine inspiré du mode de perception des oiseaux des poissons tropicaux. En gros, c'est une technologie inspirée du biomimétisme. Ouais. Vous reprenez le mode de perception du poisson tropical. Pierre, oui. Vous avez 41 ans, vous êtes nantais, vous êtes ingénieur de formation. Et L-Wave, vous allez nous présenter cette start-up. C'est parti, vous avez une minute pour le pitch.
Donc on développe une nouvelle technologie de détection électromagnétique sous-marine, inspirée donc de poissons tropicaux. Et cette technologie s'appelle le sens électrique. Et en fait, la technologie est assez simple. On va générer une bulle électromagnétique autour du véhicule sur lequel on a installé notre capteur. Et lorsqu'un objet va pénétrer dans cette bulle, cet objet modifie le champ électromagnétique et nos algorithmes permettent de traduire ces modifications en une image électrique. Donc en fait, on obtient une image électrique de l'environnement. Donc c'est une sorte de sonar électrique ou de caméra électrique. Et l'image électrique que l'on obtient, elle a deux capacités très spécifiques qui font tout l'intérêt du système. La première capacité, c'est qu'on obtient une image électrique en temps réel en trois dimensions et à 360 degrés. On voit aussi bien devant, derrière, à droite, à gauche. On voit également dans les sédiments marins, parce que le champ électromagnétique se propage dans les sédiments marins, donc on voit les objets enfouis. Et la deuxième grande capacité du système, c'est qu'on va non seulement détecter les objets, mais on va caractériser leur nature électrique. Et donc on va déterminer en temps réel si l'objet est isolant ou conducteur, s'il est vivant ou pas vivant, etc.
Et le gong a retenti. Merci Pierre Tufigo pour L-Wave. Je me tourne vers Nathalie Carré qui analyse chaque jour les projets d'entreprise. Nathalie, bonjour. Quelles sont les forces et les faiblesses d'L-Wave ?
Alors effectivement, 10 ans de recherche, intelligence artificielle et algorithmes pointus, oui. On ne reproduit pas le monde des animaux, des poissons en un claquement de doigts, donc bravo pour votre pugnacité et votre sens de la vision. Ce qui est particulièrement intelligent, c'est que vous équipez des robots existants. Donc pour vos clients, pas besoin de changer sa flotte d'appareils sous-marins, par exemple. Vous les optimisez en développant leurs capacités. Puis l'étendue des usages est intéressante pour diversifier votre activité et avoir un équilibre au sein de vos clients. C'est l'un des secrets de la sérénité financière d'une entreprise, bien sûr. Alors pas de point amélioré, mais et pas facile de réagir à un projet aussi technologique. Mais on va essayer quand même et merci pour votre indulgence. Alors en France, on a de très belles PME qui pourraient être vos clients, mais pour cela, il faudrait qu'elles sachent que vous existiez. Et c'est un peu le souci avec les innovations. On ne cherche pas une solution si on ne sait pas qu'elle existe. En revanche, les entreprises savent les difficultés auxquelles elles font face, les problèmes qu'elles rencontrent. Donc avant de présenter votre solution, vous pourriez faire un état des lieux très documenté des problèmes rencontrés par les entreprises pour détecter des mines sous-marines, détecter des intrusions à l'entrée d'un port militaire ou aider à la navigation par exemple. Je dis très documenté parce que plus vous rédigerez des contenus, plus les moteurs de recherche vous valoriseront. Ensuite, vos clients sont autant les fabricants de robots qui vont embarquer votre solution pour augmenter le matériel que les utilisateurs de robots qui cherchent plus de performance. On peut supposer qu'il y a une part de confidentialité, mais peut-être que vous pourriez expliquer plus en détail différents cas d'usage, sans citer vos clients quels qu'ils soient éventuellement. Par exemple, vous dites « L-Wave apporte une solution de rupture pour les fabricants de bras robotisés interagissant avec les opérateurs ». Ok. Concrètement, comment ça se passe ? C'est une programmation ajoutée au robot ? C'est un accessoire à fixer ? Vous faites du sur-mesure ? Combien de temps ça prend ? Et du côté du client de ce fabricant, il ne peut pas intégrer la solution lui-même ? Est-ce qu'il doit former ses équipes ? Bref, toutes les infos qui permettent de se dire que votre technologie est accessible à la plupart des entreprises, même les PME. Et accessoirement, là encore, ça crée du contenu pour le moteur de recherche. Un dernier point important, c'est le slogan, qui logiquement incarne la mission d'entreprise pour éclairer la personne qui le lit sur le bénéfice, la proposition de valeur que vous apportez. Vous vous dites L-Wave, détection, caractérisation et navigation électromagnétique. Ça, c'est la technologie qu'on ne cherche pas, donc puisqu'on ne sait pas qu'elle existe. Et d'ailleurs, peut-être que demain, vous utiliserez une autre technologie pour apporter ce même service. Alors en fait, peut-être que vous pourriez plus mettre en avant le fait que L-Wave, c'est la solution qui reproduit les miracles du monde animal au service de la sécurité, des fonds marins, de l'air et des hommes.
J'espère que vous avez pris des notes, hein, parce qu'il y avait des tas d'informations là. Hein.
Non mais je vous demanderai le
slogan. Mais
oui,
bien sûr, mais il y a un podcast. Il y a un podcast, hein, de toute façon, si vous cherchez à le réécouter. Non, ça c'était... Merci Nathalie pour vos bons conseils, hein, pour Pierre, hein, fondateur de L-Wave. En effet, il faut peut-être faire savoir, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui êtes au courant de votre super technologie. Donc c'est ça qu'elle essaye de vous...
Oui.
De vous dire.
Mais en fait, donc, c'est un domaine très technique.
Ouais, c'est hyper technique. Nos clients
sont effectivement les fabricants et les utilisateurs de robots sous-marins qui utilisent déjà des systèmes, des caméras, des sonars. Donc on a un accès assez direct à ces clients potentiels, à ces prospects. Et on a une compréhension assez relativement facile, je veux dire. Avec,
donc vous avez des clients, maintenant il faut commercialiser. Ça va être ça l'enjeu.
Donc le prochain enjeu et le principal enjeu, c'est effectivement la commercialisation. Derrière la commercialisation, il y a s'assurer que le système que l'on fournit répond évidemment aux besoins et les bonnes performances. Alors on a un avantage, point de vue commercialisation, c'est que le système répond à beaucoup de lacunes des systèmes existants et nos clients potentiels nous attendent.
Ouais, donc vous allez avoir un produit qui répond voilà. aux besoins. Philippe Missoff, votre regard sur cette start-up.
L-Wave, c'est aussi une pépite technologique. Hein. La technologie est super intéressante. Je suis d'accord. Donc, L-Wave fait partie de la première promotion de Start 2018, qui a subi qui n'était pas dans le Covid, mais qui était quand même présente et qui est aujourd'hui au sein du GICAN. Et donc a aussi accès, parce que tous les constructeurs de drones, quels qu'ils soient, viennent en maritime, viennent au GICAN et ils sont au GICAN. L-Wave, c'est vraiment une société hyper innovante. D'ailleurs, vous avez gagné de mémoire un appel à projet de le Blue Economy Window de la Commission européenne. Il y a que 5%, je crois, des personnes qui ont accès à ça.
Une nouvelle pépite française. Donc, en plus, vous êtes soutenu par BPI France et par la Commission européenne. Oui. Ça coûte plusieurs milliers d'euros pour vos potentiels clients.
Quelques grosses dizaines de millions.
Mais ça vaut le coup, c'est une vraie pépite technologique. Merci pour votre pitch, Pierre Tufigo.
Merci à vous.
Fondateur de L-Wave, merci d'être venu dans La France Bouge. Nathalie Carré, nous, on se retrouve demain pour un nouveau pitch. Et on attend, chers auditeurs, vos candidatures inspirantes et innovantes. Il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie.
Et oui, une seule adresse, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et promis juré, Charlotte Barécan et moi, on lit toutes les candidatures.
13h51 sur Europe 1, à suivre demain un emploi. Y a-t-il des emplois dans l'armée, plus précisément dans la marine? Quelle formation? Toutes les réponses dans moins d'une minute.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Et c'est déjà la dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours avec Philippe Missoff. Vous êtes le délégué général du GICAN et dans cette France Bouge spéciale, à la veille de la sortie du film Top Gun Maverick, dont Europe 1 est partenaire. On a eu envie de vous avoir, vous aussi, commandant Stéphane, bonjour.
Bonjour Elisabeth Assayag.
Vous êtes capitaine de corvette et chef de secteur recrutement ouest dans la marine. Si vous êtes parmi nous, c'est parce qu'il y a de l'emploi aujourd'hui. La marine, ce sont plus de 39 000 personnes et vous recrutez chaque année plus de 4 000 jeunes pour 80 métiers différents. Alors, quel type de métier ?
Oui, tout à fait. On recrute chaque année donc 4 000 jeunes français de 16 à 30 ans et de tout niveau scolaire, hein, puisque notre spectre de recrutement va du niveau 3e jusqu'à Bac plus 5. Et les métiers sont vraiment variés, comme vous l'avez dit, 80 métiers, 12 domaines d'emploi.
Quel type de métier ?
Nous avons des métiers dans le domaine des opérations et de navigation, classiques, pour conduire les manœuvres et les actions en mer. Nous avons aussi des métiers techniques, des mécaniciens, des électriciens, le domaine du nucléaire, comme expliquait le commandant du porte-avions tout à l'heure, pour la propulsion notamment des navires. Mais nous avons aussi des métiers dans le soutien, je veux dire, l'informatique, la restauration. Voilà. Donc le spectre est très très large.
Un spectre très large, vous disiez, vous preniez des jeunes dès la troisième jusqu'à Bac plus 5. Comment vous les recrutez aujourd'hui ? Vous passez par quels moyens ?
Nous recrutons donc via divers moyens. Le premier lieu de recrutement, c'est les centres d'information et de recrutement en France. On en a 59 sur tout le territoire. Et donc les jeunes viennent à notre rencontrer des conseillers en recrutement qui vont donc les recevoir et les guider dans le choix d'orientation de carrière. Nous sommes aussi évidemment présents sur le numérique et sur Internet. Notre site Internet, c'est lamarinerecrute.fr et qui permet de créer un premier lien aussi avec les jeunes qui cherchent l'information sur nos carrières.
Ce qui est intéressant aussi avec vous, c'est que pour chacun des métiers, vous formez un. Je crois qu'il y a 16 écoles spécialisées pour les métiers que vous proposez.
Oui, tout à fait. Quand on intègre la marine, on commence par intégrer une école de formation. On est rémunéré dès le premier jour d'école. Et donc, on intègre l'école pour apprendre un métier. La formation peut durer quelques semaines comme plusieurs mois. Le principe, c'est qu'on peut rentrer dans la marine pour faire un métier, même si nous n'avons pas avant suivi un cursus scolaire en lien avec le métier. Donc aujourd'hui, nous recrutons par exemple des mécaniciens qui ont fait avant un bac pro horticulture. C'est qu'un exemple, mais c'est vraiment on va former le jeune au métier qu'il exercera après.
Il y a une réelle ouverture chez vous.
Une grande ouverture. Il n'y a pas de Il n'y a pas de déterminisme social, pas de déterminisme scolaire. On rentre dans la marine et on est formé pour le futur emploi. Ensuite, on est formé tout au long de la carrière, puisque un marin qui fait une carrière d'environ 20 ans va passer environ 4 fois à l'école pendant tout au long de sa carrière. Et donc, ça lui permet de progresser en grade et en responsabilité à bord de nos bateaux, mais aussi de nos sous-marins, parce que nous avons la composante sous-marine, ou nos unités de commando.
Donc des formations sans arrêt. Pour devenir pilote, tiens, par exemple, on fait comment ?
Pour devenir pilote, il y a deux voies d'accès. Il y en a une qui est sur dossier puis concours à partir du niveau bac. Et le deuxième, c'est concours à l'issue des classes préparatoires pour intégrer l'école navale et ensuite pouvoir intégrer la filière de l'aéronautique navale. Mais la première voie d'accès est intéressante puisqu'on peut rentrer donc avec n'importe quel bac et donc n'importe quelle formation pour ensuite faire pilote de l'aéronautique navale. On parlait des rafales tout à l'heure, mais aussi les pilotes d'avions de patrouille maritime ou d'hélicoptères.
Et si on a envie de vous rejoindre, en plus, géographiquement, vous avez des bases à terre à Toulon, à Brest, mais aussi à Cherbourg.
Tout à fait. Les bases opérationnelles, donc il y en a partout en métropole, mais aussi outre-mer. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour venir rencontrer les recruteurs de la marine, c'est donc dans les centres d'information et de recrutement qui sont partout en France. Et pour trouver nos coordonnées, c'est sur le site internet lamarinerecrute.fr.
Merci, commandant Stéphane. Vous êtes capitaine de corvette et chef du secteur recrutement ouest dans la marine. Merci à vous d'être venu dans la France Bouge. Merci à Philippe Missoff, délégué général du GICAN. Top Gun, ça sort demain. Top Gun Maverick, Europe 1 et partenaire. On vous conseille d'aller le voir. Franchement, vous allez vous régaler pendant plus de 2 heures. C'est déjà la fin de votre émission. Nathalie Carré, nous, on se retrouve demain avec les piscines. Et oui, on est des gros consommateurs de piscines, nous les Français. Eh bien, on va en parler demain avec l'un des leaders. C'est Water Air. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.